Les milieux humides sont partout autour de nous. Pourtant, on les connaît encore très peu et on les perd, souvent sans même s'en rendre compte. Depuis plus de 50 ans, Canard Illimité Canada agit au Québec pour les conserver, les restaurer et mieux comprendre leur rôle essentiel. Mais derrière ces actions, il y a une histoire faite de projets, d'innovation, de collaboration et surtout de personnes engagées. Dans ce balado, on vous propose de remonter le fil de cette histoire. Je suis Fabien Cloutier et je vous invite à plonger dans l'histoire de Canard Illimité Canada au Québec avec moi.
Pour ce dernier épisode, on avait envie de vous raconter une histoire. Une histoire qui ressemble un peu à ce qu'on vous a parlé depuis le début, la vision, l'engagement, la collaboration. On vous amène sur une petite île du Bas-Saint-Laurent. Je suis Mélanie Deslongchamps, directrice des opérations provinciales pour le Québec chez Canard Illimité Canada et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Gaston Derry, propriétaire de l'île aux Pommes. Pendant plus de 30 ans, monsieur a été propriétaire et il l'a maintenant cédé à ses enfants Charles-Hubert et Laurence en 2014. Ensemble, on revient sur l'histoire d'un projet de restauration né dans les années 80, un projet qui a transformé complètement ce milieu et qui continue encore aujourd'hui à porter ses fruits. Bonjour Gaston.
Bonjour Mélanie.
On va commencer par comment ça s'est passé, le début de cette histoire-là. Racontez-nous votre lien avec l'île aux Pommes.
Ben, mon lien avec l'île aux Pommes, c'est une belle histoire d'amour parce que c'est mon grand-père Derry en 1927, qui était un environnementaliste avant l'heure, qui avait convaincu son beau-frère, docteur Stanislas Godreau, d'acheter l'île aux Pommes parce qu'il voulait la protéger. Imaginez, mon grand-père disait au début du siècle que si on ne protégeait pas les habitats naturels, on serait obligé de se mettre des masques dans les grandes villes un jour. Alors, c'est un visionnaire, c'est un environnementaliste avant l'heure. Et puis, il voulait protéger l'île. Et il y avait aussi le souci que l'île soit mise à contribution pour les scientifiques. Et c'est ainsi que Dr Godreau a acheté l'île aux Pommes en 1927. Mon grand-père Derry l'a eu en 1946. Mon grand-père, ma grand-mère Derry l'a eu au décès de mon grand-père en 1957. Mon père me l'a eu en 1970 et il me l'a vendu en 1980. Maintenant, les gens à l'époque me disaient que j'étais chanceux d'avoir une île, mais c'était un peu un cadeau de grec, parce qu'à cause de la prolifération des goélands et des cormorans, l'île était rendue un caillou rocheux, avec 20 000 goélands, 5 000 cormorans, et c'était un habitat qui était complètement dégradé. Et quand j'étais tout petit, moi, j'étais très fier de dire que mon père avait une île, mais quand on allait à l'île aux Pommes, on était envahi par les cormorans. Puis ma formation d'ingénieur forestier, comme aménagiste forestier, m'a démontré que l'île avait un potentiel latent qui ne demandait qu'à être exploité.
Donc, comment vous est venue l'idée de restaurer cette île-là? J'imagine que c'est par le fait, justement, de votre formation. Mais qu'est-ce qui a fait le déclencheur là, de vouloir restaurer cette île?
Mon père est un héros de guerre qui a sauvé la vie de 55 sous-mariniers allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis moi, à l'aube de mes 20 ans, je me cherchais une vocation. Et je me souviens qu'un après-midi d'automne, je marchais sur l'île aux Pommes. Et là, j'ai eu un coup de vent en plein visage, puis j'ai regardé autour de moi, puis j'ai vu que c'était une île qui ne demandait qu'à être réaménagée. Et cette journée-là, je me suis dit, je vais en faire un habitat pour la sauvagine, et un jour, ça sentira la rose sur l'île aux Pommes. Et c'est à partir de ce moment précis que j'ai décidé qu'il fallait que l'île soit revitalisée et qu'elle fasse partie de la nature et des éléments.
Qu'est-ce qui vous a fait croire que c'était possible de revenir à un état qui était complètement différent? Qu'est-ce qui vous a fait croire que c'était possible?
Une phrase que mon grand-père m'avait enseignée quand j'étais tout petit, il disait « Rapprochons-nous de la nature, elle ne ment jamais ». Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'avec ma formation d'ingénieur forestier, je me suis dit que si on était capable de faire un aménagement qui soit compatible avec les processus naturels, mais qui soit orienté vers les habitats qui sont recherchés, notamment par les canards d'air, et que si on utilisait toute notre formation puis nos connaissances scientifiques pour mettre à contribution l'aménagement d'une île comme ça, ça m'a donné beaucoup d'espoir.
Dans votre idée initiale, vous saviez déjà que vous vouliez travailler avec Canard Illimité Canada. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré en contact avec nous comme organisation pour vous aider dans votre rêve de restaurer l'île?
D'abord, j'étais pleinement conscient que je ne pouvais pas faire ça toute seule. Puis quand j'avais dit, je disais aux gens, un jour, ça sentira la rose. Il y a des gens qui pensaient que je me prenais pour le petit prince de Saint-Exupéry. Mais j'ai été à l'origine de l'arrivée de Canard Illimité Canada à Québec. Et j'ai été un des premiers bénévoles de Canard Illimité lorsqu'on avait organisé le premier souper bénéfice. Et je connaissais très bien Canard Illimité, qui font des aménagements justement pour favoriser la sauvagine. Puis c'est là que j'avais approché Canard Illimité, qui avait une grande expertise au niveau de la restauration des plans d'eau, des marais, mais qui n'avait pas beaucoup d'expertise au niveau de faire une intervention sur l'île. Puis moi, bien, j'avais préparé un plan d'aménagement que je leur avais proposé, puis ils ont été enchantés par le plan d'aménagement qu'on a développé. Et ça rentrait exactement dans les cordes de Canard Illimité qui voulait s'impliquer au Québec, qui voulait s'impliquer dans des projets structurants, mais qui contribueraient à la sauvagine. Alors, évidemment, lorsqu'on aménage des plans d'eau, on va avoir des canards barboteurs, mais autour des îles du Saint-Laurent, on a des canards plongeurs, des canards de mer, et c'était un milieu extraordinaire, justement, pour arriver avec un plan d'aménagement qui permettrait de créer un habitat favorable aux canards d'air.
Puis concrètement, là, pour tous les gens qui nous écoutent, c'est quoi concrètement qui a été fait comme aménagement?
Bien, écoutez, on voulait éloigner le goéland. Le goéland est un oiseau qui a besoin d'un espace à découvert, alors que le canard d'air a besoin d'un espace qui est plus refermé. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait recréer une strate herbacée et arbustive dense. Alors, même si l'élopome était un caillou rocheux, il restait quand même de la végétation. Alors là, on a fait un brûlage contrôlé. On a transporté 30 000 livres de terre sur l'île aux pommes. On a étendu ça. On a été chercher des boutures de ribaisse, de groseilliers sur l'île aux fraises. Et puis, on a fait effectivement un brûlage contrôlé qui a contribué à laisser aller de l'azote. Et avec le plan d'aménagement, bien, ce qui est intéressant, c'est que éventuellement, ça a pris quelques années, la végétation a commencé à prendre de l'importance et l'habitat qui a été caractérisé sur l'île était un habitat qui était à l'encontre des attentes du goéland, mais qui était exactement le type d'habitat qu'on voulait pour le canard d'air.
À quel moment vous vous êtes dit que ça fonctionnait finalement?
Bien, écoutez, on a fait un plan d'aménagement. Et là, on attendait que la nature prenne ses droits. Puis j'ai une anecdote que j'aime bien conter, c'est qu'à un moment donné, j'étais sur la galerie de bonheur un matin, puis j'ai entendu le chant d'un oiseau. C'était pas le chant d'un goéland, c'était le chant d'un bruant chanteur. Et le son que j'entendais, je décodais qu'il disait « Mais c'est donc bien beau ici, je vais aller le dire à toutes mes amies. » Alors, il est probablement allé dire aux canards et d'air, vous devriez venir sur l'île aux pommes, il y a un habitat qui correspond exactement à ce que vous voulez. Et avec le principe de la philopatrie, où le canard et d'air revient tout le temps niché sur la même île et au même endroit, la colonie d'air a commencé à se constituer. Puis au fil des années, le nombre d'air a augmenté. Avec le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a tout près de 3000 femelles d'air qui nichent sur l'île.
Aujourd'hui, quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'on peut observer sur l'île?
Bien, écoutez, évidemment, la grande vedette de l'île aux pommes, c'est le canard d'air. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, ça fait longtemps que je dis qu'il faut protéger la biodiversité, parce que si on protège la biodiversité, on protège les conditions de vie sur Terre pour l'humain. Et l'île est rendue une référence en termes de biodiversité à l'échelle internationale. Mais il n'y a pas juste des canards d'air qui sont venus sur l'île. On a dénombré 135 espèces d'oiseaux. On a maintenant des oiseaux de proie. Et l'île est rendue une halte migratoire autant au printemps qu'à l'automne. Cette année, il y a eu une grosse migration de junco ardoisés. L'île était littéralement envahie par les junco ardoisés. Alors, on a aussi plusieurs espèces comme des mouettes tridactyles, des guillemots à miroir, des petits pingouins qui nichent sur l'île. Alors, l'île est rendue non seulement un aire de nidification, mais rendue une halte migratoire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là-bas, c'est la nature qui est maître et les oiseaux ont tendance à aller sur les îles. Pourquoi ils ont tendance à aller sur les îles? Parce que les îles sont des lopins de terre qui baignent au milieu d'une grande surface d'eau. Et les oiseaux savent pertinemment que sur une île comme ça, il y a beaucoup moins de prédateurs que sur la terre ferme. Alors aujourd'hui, l'île est un oasis de biodiversité. Et les centaines d'oiseaux qui viennent sur l'île et les mammifères marins retrouvent exactement un habitat qui correspond à ce qu'ils recherchent, non seulement pour se reproduire, pour se nourrir, mais pour leur survie.
C'est un bel exemple, l'île aux pommes. On nous demande souvent si nos projets de restauration fonctionnent. Puis de fait que depuis longtemps, vous êtes intervenu, bien là, maintenant, on peut témoigner de ces résultats-là. Donc, c'est vraiment super. Vous avez aussi protégé l'île là, avec un statut de réserve naturelle en milieu privé. Ça implique quoi pour un propriétaire privé là, d'avoir ce statut-là?
En fait, quand le gouvernement du Québec a voulu créer la loi sur les réserves naturelles en milieu privé, on m'avait demandé de raconter un peu l'histoire de l'île aux pommes parce qu'ils se sont référés à l'histoire de l'île aux pommes comme base de cette loi. Et lorsque la loi sur les réserves naturelles en milieu privé ont été adoptées, nous avons fait une demande pour être reconnue. Et l'île aux pommes a été la première réserve naturelle en milieu privé de l'estuaire maritime du Saint-Laurent à perpétuité. Et ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que les propriétaires de leur vivant peuvent définir quelles sont les activités qui sont permises et quelles sont les activités qui sont prohibées à perpétuité. Alors là, j'ai réuni mes enfants, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut continuer à faire, mais qu'est-ce qu'on voudrait qu'il ne se fasse jamais. Et c'est dans ce contexte-là que notre famille a contribué à 23 hectares au niveau des cumuls des aires protégées au Québec. Et aujourd'hui, l'île aux pommes est protégée à perpétuité. Alors même quand j'aurais été rejoindre mon grand-père et mon père, du haut des cieux, je regarderai l'île aux pommes et ce sera tout le temps une propriété privée qui est protégée à perpétuité selon une loi gouvernementale du Québec.
C'est un très beau geste que vous avez fait. Aussi, ben, on a une relation ensemble avec Canard Illimité parce qu'on a fait un projet de restauration. Peut-être nous parler, de la relation que vous avez eue, qu'est-ce que ça a eu comme impact, mais aussi, tu sais, est-ce que je pense que vous pouvez nous parler de l'entente de partenariat parce que c'est sûr que quand on restaure un milieu, on veut s'assurer de sa protection puis qu'il n'y ait pas éventuellement une destruction, là. Donc, vous pouvez peut-être parler de votre expérience.
Ben, écoutez, moi, quand j'étais petit garçon, mon grand-père me prenait par la main puis il m'amenait sur le bord de la mer, qu'on appelait la mer, le Saint-Laurent, Trois-Pistoles, puis il me montrait à reconnaître les espèces de canards juste à la façon qu'ils volaient. Et j'ai toujours aimé les canards. Et quand j'ai appris qu'un organisme s'appelait Canard Illimité puis s'occupait des canards pour la survie des différentes espèces de canards, je me suis dit, il faut absolument que je communique avec cet organisme-là. Pour moi, Canard Illimité est le plus bel organisme environnemental au Québec. Aujourd'hui, on parle beaucoup de biodiversité parce que c'est à la mode de parler de biodiversité depuis la pandémie, mais Canard Illimité s'occupe de la protection de la biodiversité depuis 50 ans. C'est des milliers d'hectares au Québec qui ont été protégés. Puis quand on protège la nature, pour les canards, bon, on la protège pour les êtres humains aussi, parce que l'humain fait partie de la biodiversité. Alors, quand je me suis impliqué comme un des premiers bénévoles de Canard Illimité à Québec, puis que je leur ai parlé de mon plan d'aménagement, Canard Illimité ne m'ont pas traité d'énergumène. Ils m'ont accueilli comme un passionné qui voulait s'adjoindre à un organisme crédible pour faire un plan d'aménagement pour assurer une viabilité à une petite île de Saint-Laurent pour les générations futures. Et pour moi, Canard Illimité est peut-être est pas suffisamment connu parce que c'est un organisme qui, depuis 50 ans, s'investit corps et âme pour protéger des habitats fauniques. Puis quand on protège les habitats fauniques, on protège les conditions de vie sur Terre. Alors moi, je trouve exemplaire le travail que Canard Illimité fait. Puis j'ai toujours eu une grande admiration pour cette institution.
Puis aujourd'hui, l'île, elle représente quoi pour vous quand vous allez sur l'île, quand vous avez du temps? Quelle réflexion vous avez? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
Le bonheur. Vous savez, chaque homme, chaque femme viennent sur Terre pour une raison. Puis moi, j'ai un ami à un moment donné qui me dit « T'es chanceux, toi, Gaston, parce que tu sais pourquoi t'es venu sur Terre. » Alors, chaque fois que je vais à Lille, je suis envahi d'un grand bonheur puis d'une grande satisfaction de voir toute cette faune ailée et toute cette nature qui est extrêmement reconnaissante envers le geste qu'on a posé. Puis on a souvent tendance à dire que les humains, faut pas qu'ils interviennent, l'humain détruit. Mais c'est pas vrai, ça. Quand l'humain utilise son génie pour faire du bien, ça donne des résultats. Alors moi, avec ma formation d'ingénieur forestier, puis la passion que j'avais de vouloir changer le monde, bien, j'ai fait les travaux qui devaient être faits sur l'île aux pommes. Et bien, j'ai un organisme qui m'a appuyé là-dedans. Puis ma très grande satisfaction aussi, c'est de voir les actuels propriétaires, soit mes deux enfants, Charles-Hubert et Laurence, qui perpétuent les traditions de protection de la biodiversité qui ont été initiées par leur bisaïeul il y a 100 ans. Alors, à un moment donné, mon fils a dit on devrait installer des nichoirs d'oiseaux et d'hirondelles bicolores sur l'île parce que l'hirondelle bicolore a décliné de plus de 90% en Amérique du Nord. Alors, sous son initiative, on a installé des nichoirs d'oiseaux d'hirondelles bicolores sur l'île aux pommes et on en a installé 14, puis ils sont toutes pleines. Alors, cette année, chaque fois qu'on arrive sur l'île, on est accueilli par la nature. Et quand la nature nous accueille et qu'elle est reconnaissante de ce que l'on fait, c'est un bien-être qu'aucune fortune au monde ne peut nous procurer.
Merci beaucoup, Gaston, de partager la passion pour l'île, la biodiversité, pour notre organisation. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation-là.
Merci beaucoup.
L'île aux pommes, c'est une petite île, mais c'est une grande histoire, une histoire de vision, de patience et de collaboration, et surtout une preuve que restaurer un milieu, c'est possible, que derrière chaque projet, il y a des personnes qui y croient, et que parfois, il suffit de planter une graine pour voir un jour une forêt apparaître ou un milieu propice aux aideurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette série.